On a eu le même phénomène un petit peu plus au sud, au Guatemala, où Pedro de Alvarado a pu s'appuyer sur les caciques qui étaient en lutte contre les Quichés. Et puis au Pérou, de la même manière, Pizarro a reçu le concours des Canards, des Cahuachihuayapas et des Huancas et d'autres pour venir à bout de l'Empire Inca. Alors c'est vrai que l'affaire, au bout du compte, au terme de ces désunions, de ces alliances tragiques, c'est évidemment très mal terminé pour les indigènes, puisqu'on a eu, on a eu affaire en Amérique latine à un ethnocide, enfin l'Amérique qui n'était pas encore latine, mais à un ethnocide. Et d'une certaine manière, au bout de la conquiste, lorsque sont arrivées les indépendances, les indigènes étaient des survivants. Manque de chance, la naissance des républiques n'a pas considérablement amélioré leur sort. Il y a d'ailleurs une phrase assez intéressante de Bolivar au congrès d'Ayacucho qui a lancé: Nous ne sommes pas européens, nous ne sommes pas indiens, nous sommes autre chose. Sauf qu'effectivement, il restait quand même ces survivants indigènes. Et donc victimes, ils l'ont été, victimes, ils demeurent. Et comme ils sont victimes, effectivement, de l'histoire, ils passionnent, pas toujours d'ailleurs, mais enfin ils passionnent les journalistes, les écologistes, les droits de l'hommiste, les mermétistes, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Or, quand on regarde aujourd'hui, l'Amérique latine, elle est essentiellement métisse. Il y a 45 millions d'indigènes, ça représente environ 10% de la population, qui sont souvent en conflit avec leurs concitoyens, puisqu'on a des États nationaux. Mais il s'agit de conflits dans lesquels, assez paradoxalement, les acteurs sont parents. Sont parents parce que le processus de métissage est tellement avancé que la frontière devient très difficile à tracer entre qui est indigène et qui ne l'est pas. Il y a des pays comme l'Équateur, par exemple, où le dernier recensement, on ne sait pas trop en fait s'il y a 20% d'indigènes, 40% d'indigènes, 45% d'indigènes, chacun à un moment ou à un autre tirant les chiffres de son côté. Et c'est vrai que si les indigènes demeurent effectivement les principales victimes, parce qu'ils sont toujours marginalisés, il faut le dire, il y a aussi en Amérique latine des dizaines de millions de métis qui sont tout autant victimes des politiques sociales désastreuses, qui sont tout autant victimes de marginalisation. Et d'une certaine manière, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils intéressent beaucoup moins que les Indiens dans la presse. Ensuite, quand on regarde les Indiens en tant que tels, ça n'existe pas. Il y a évidemment des catégories, des différences, des moments, des périodes. Il y a toujours eu un débat, dans les mouvements indigènes en particulier, sur que faisons-nous avec les autres. Bon. Et on a toujours eu deux grands courants. Il y a un courant, par exemple, dans la Confédération nationale des indigènes d'Équateur, qui est le mouvement indigène le plus puissant d'Amérique latine. On a un courant, un pôle classiste de lutte des classes, et puis, qui est surtout dans les hautes terres, et puis un courant plus ethniciste qui, lui, se trouve en Amazonie. Ça, d'ailleurs, c'est une constante, c'est la même chose en Bolivie. Si vous prenez la Bolivie, ce qu'on appelle le catharisme, qui vient du nom d'un leader indigène du XVIIIe siècle, là encore, on a une fraction qui est fondamentaliste, qui est itepriste, qui est rétrograde, qui veut reconstituer ce qu'on appelle le Colasuyo. Alors, le Colasuyo, c'était l'ancien empire des Incas. Vous avez des gens, je pense en particulier à un indianiste charmant, d'ailleurs, au demeurant quand on le rencontre, qui, au moment où Evo Morales élaborait sa nouvelle constitution, disait, lui, on a une contre-proposition. Notre loi constitutive dit qu'il faut exécuter tous les Blancs parce qu'ils ont commis le plus grand des crimes, l'invasion de l'Amérique. Bon. Ouais. C'est un peu raide. C'est un peu raide.
N'empêche que les Aymaras et les Quechua en Bolivie ont joué un rôle très important au point d'élire Evo Morales.
Evo Morales.
Et donc de contribuer à son élection, voilà. En tout cas. Evo Morales, et à son succès, sans souci de classe.
Laissez-moi parler, maman. Mais Evo Morales appartient, lui en particulier, à ce qu'on pourrait dire, ce courant national populaire qui, sans rien abandonner des revendications indigènes, fait le lien avec le reste de la population. Ouais. C'est-à-dire qu'il a un discours national populaire indigéniste, ouais. Et non pas un discours indigéniste. Et il est en combat féroce, d'ailleurs, avec les indigénistes. Alors, vous venez de le souligner, les rapprochements sont souvent un peu... ils sont difficiles, ils sont chargés d'incompréhension réciproque. Néanmoins, dans les années 60-80, les luttes indigènes se sont rapprochées des mouvements populaires et surtout dans le cadre des luttes paysannes, puisque la majorité des indigènes étaient paysans, ce qui est en train d'ailleurs de se modifier. Ça n'a pas été couronné de succès, il faut le dire, parce qu'en particulier, la gauche latino-américaine a toujours eu une difficulté à comprendre ce qui se passait avec les Indiens. C'est-à-dire que dans sa volonté de tout ramener à la lutte des classes, on a évidemment minoré le phénomène de la culture indigène, le phénomène de l'histoire indigène. En même temps, le survaloriser mène aussi à des catastrophes. Donc le problème, c'est un équilibre fragile en suivant des périodes. Dans les périodes de crise, dans les périodes de désarroi, les indigènes se replient sur leur culture. Dans des périodes où les luttes se développent d'une manière plus consensuelle, on les retrouve à la tête du combat, et en particulier, évidemment, la mondialisation a été un moment particulièrement important, les années 90.